Journal de la vie de ce fidèle serviteur et ministre de l'Évangile de Jésus-Christ, William Caton, préface de l'éditeur du site Will Caton, 1636-1665, enfant, fut choisi pour être camarade d'école, puis compagnon à demeure, du fils de Margaret Fell et du juge Fell. Les Fell étaient une famille importante et aisée du nord de l'Angleterre, le juge Fell ayant siégé à plusieurs parlements et étant juge itinérant. Will Caton devint bientôt comme un second fils pour la famille, puis servit comme secrétaire de Margaret Fell. Lorsque George Fox visita la maison des Fell Swarthmore en 1652, Will, avec le reste de la famille, fut convaincu de la vérité. Swarthmore devint le berceau du quacrisme, et Will mûrit rapidement là où nombre des géants du premier mouvement Quake venaient se reposer, se remettre des persécutions et croître spirituellement. Dans cet environnement, il parvint à une maturité bien au-delà de son âge naturel et devint rapidement, à 18 ans, un ministre de la parole de vie. Marchant à pied, il exerça d'abord son ministère en Angleterre, puis passa la plus grande partie de son temps dans les Pays-Bas européens, les Pays-Bas et certaines régions d'Allemagne. Il reçut du Saint-Esprit des dons merveilleux, avec des paroles prononcées de la part du Seigneur, qui convainquirent des milliers de personnes. Sa vie fut abrégée, il mourut à 29 ans. Peut-être le plus grand témoignage rendu à son œuvre est-il que George Fox fit traduire cet ouvrage en néerlandais, en paya l'impression de ses propres deniers, puis diffusa le livre dans tout le Pays-Bas. Témoignage de George Fox concernant William Caton en l'an 1663, William Caton partit pour la Hollande, et peu de temps après avoir achevé son témoignage là-bas, il mourut, et peu après sa femme mourut aussi, et il laissa derrière lui ce journal de récit, qui m'ayant été envoyé, j'ai jugé bon de le mettre sous presse et de le recommander à tous ceux qui l'ont connu. Car après sa conversion, il prêcha l'évangile du Christ et affermit ses frères, et vous verrez qu'il était comme l'un de ces scribes convertis dans le royaume de Dieu, qui tirent de leur trésor des choses nouvelles et anciennes. Il était semblable à Timothée, qui fut un exemple d'innocence, de simplicité et de pureté, dans sa vie et sa conduite, après sa conversion, car sa vie prêchait autant que sa doctrine, dans les églises du Christ. Et tandis que beaucoup se sont vantés et ont parlé de la vérité au commencement, sans jamais savoir ce qu'elle était, dans son récit, vous pouvez voir à la fois un exemple et un témoignage de la vérité au commencement, et comment, durant de nombreuses années, il a parcouru à pied bien des étapes pénibles, en Angleterre, en Écosse et ailleurs, au service du Seigneur. Sa vie innocente prêchait la justice et la vérité partout où il passait, et il était un bon parfum pour Dieu et dans le cœur des peuples. Il était de ceux qui ont souci de la gloire et de l'honneur de Dieu, et de la propagation de la vérité et de sa prospérité, et c'est à cela qu'il s'est dépensé et qu'il a achevé son témoignage, lui qui, de son vivant, écrivit beaucoup de précieuses épîtres aux amis, outre plusieurs livres. Dans ses voyages, il eut de nombreuses épreuves et exercices causés par de faux frères, des régressifs et des apostats, outre les périls de la mer, et parmi les prêtres et les docteurs, mais le Seigneur, par son bras et sa puissance éternelle, lui donna la domination sur tout cela. Quant à ses adversaires, ils se flétrirent et s'évanouirent, et après qu'il eut achevé son témoignage, il mourut dans le Seigneur, il est béni et se repose de ses travaux, et ses œuvres le suivent. George Fox Gooses, près de Brentwood, Essex, depuis la maison de son gendre William Mead, 4 jours du 6e mois, 1688, vie de William Caton, chapitre Il infini miséricorde du Seigneur Dieu envers lui dès ma toute petite enfance, comment il en fut pour lui au temps de sa jeunesse, son entrée dans la famille du juge Fell à Swarthmore. Le Dieu de mon salut a bien voulu, dans son amour infini, me faire miséricorde depuis ma toute petite enfance jusqu'à ce jour, et par une main secrète, m'a préservé de beaucoup des maux du monde, qui arrivent aux enfants des hommes, et dont beaucoup sont vaincus. Oui, dès mon enfance il a agi envers moi avec une douceur extrême, avec largesse et miséricorde, et surtout depuis qu'il lui a plu de faire connaître en moi sa vérité céleste et son salut éternel. Comment donc manquerai-je de publier sa louange et d'annoncer ses œuvres merveilleuses? Ma louange, afin que d'autres apprennent à le craindre et à le connaître, à le servir et à lui obéir, pour que leurs âmes reçoivent miséricorde de lui comme j'en ai reçu, et afin qu'il le loue et l'exalte dans la terre des vivants, lui qui est Dieu au-dessus de tout, le Créateur de toutes choses, à qui soit la gloire, l'honneur et la domination au siècle des siècles. Lorsque j'étais enfant, j'ai été élevé et instruit avec le soin paternel et l'affection maternelle dont mes parents étaient alors pourvus. Tandis que j'étais encore très jeune, mon cœur s'inclinait vers la sagesse et l'intelligence, et inspiré par un principe divin le Saint-Esprit, je ressentais alors parfois sa puissance vaincre mon cœur et y engendrer de la tendresse envers mon Créateur, quand je me tenais à méditer ses ouvrages, et par ce principe divin, j'étais beaucoup retenu loin de certains vices auxquels les enfants sont enclins. Mais hélas, je ne savais pas que ce qui me retenait était en moi, bien que je fus saisi de crainte et d'effroi lorsque j'étais sur le point de pécher contre mon Créateur, ce que je sais maintenant très bien être venu par le principe divin déjà mentionné. J'avais aussi peur des reproches et des châtiments de mes parents, qui, selon leur connaissance, s'efforçaient de m'éduquer dans la vertu et la piété, et c'est pourquoi ils m'enseignaient à prier matin et soir, à lire souvent, et à aller fréquemment entendre ce qu'ils appelaient la parole de Dieu. Grand était leur soin de m'élever dans la crainte du Seigneur, selon leur capacité et leur compréhension, ainsi que dans les bonnes manières, comme ils disaient, dans le monde, et c'est pourquoi ils me firent instruire dans les écoles que la contrée offrait, et cela pendant de nombreuses années. Quand j'eus environ 14 ans, mon père me conduisit chez le juge Fell pour y apprendre avec un parent, un prêtre, qui était le précepteur du fils du juge, et j'eus ainsi l'occasion de fréquenter des gens qui étaient grands dans le monde. Par la miséricorde du Seigneur, je me conduisis si bien parmi eux quant à l'extérieur que je trouvai faveur auprès de toute la famille, du plus grand au plus petit. Et en temps voulu, je fus promu à être le compagnon nuit et jour du fils du juge, et je mangeais comme il mangeait et logeais comme il logeait, et je suivais les mêmes plaisirs qu'il suivait, comme la pêche, la chasse, le tir, etc. En ce temps-là, mon cœur était touché par mon état, car puisque la Providence m'avait jeté dans une si noble famille, où il y avait d'aussi charmants enfants, dont la compagnie m'affectait plus que de peu, et puisque, au sein de tant de plaisirs, d'aisance et d'abondance, je vivais avec eux autant que mon cœur pouvait le désirer. Il demeurait en mon cœur une droiture envers Dieu, et j'invoquais souvent son nom. À cette fin, je m'attardais dans la chambre jusqu'à ce que le fils du juge, avec qui je logeais, fût descendu, afin de pouvoir ensuite prier seul, car mon âme désirait avoir la bénédiction et la faveur du Seigneur, en lesquelles se trouve la satisfaction, mais non dans les plaisirs que je poursuivais, ni dans l'aisance et l'abondance où je vivais. Après avoir appris quelque temps ensemble dans la famille du juge, nous fûmes envoyés dans une école à la campagne, en un lieu appelé Roxhead. Là, je rencontrai bien des tentations et rarement une bonne compagnie, si ce n'est ce qui se donnait à la folie et au libertinage. Mais le Seigneur se montra merveilleusement gracieux envers moi, et maintes fois, lorsque je n'avais mérité de lui que des coups, il brisa et vainquit mon cœur par son amour divin, si bien que je demeurai souvent à admirer sa merveilleuse miséricorde, sa longanimité, sa patience et sa bonté infinie. Car véritablement, si sa compassion avait fait défaut, j'aurais pu être détruit dans les péchés de ma jeunesse. Mais béni soit son nom à jamais, il eut pitié de moi. Comme la Providence l'ordonna, nous ne restâmes pas longtemps dans cette école, mais nous retournâmes chez le juge Fell, où il en fut pour moi comme je l'ai mentionné, de sorte que je commençai à voir la profondeur de ce que le monde peut offrir. Ayant alors environ 15 ans, mon cœur était fort porté vers la sagesse, ainsi qu'à rechercher la connaissance, car dans cette famille il y avait une grande profession de foi. Ceux qui pouvaient parler de l'Écriture, répéter des sermons et en faire des paraphrases étaient tenus en estime. Je m'efforçais donc beaucoup de retenir les principes exposés, mais lorsque ma mémoire ne me servait pas pour faire comme certains le faisaient en cela, je pris l'habitude d'écrire beaucoup d'après les prêtres, mais ce que j'en retirais ne pouvait donner satisfaction à mon âme, qui parfois avait une grande faim du Seigneur. Chapitre I 1652. Première visite de George Fox à Swarthmore. Tendance de sa doctrine. William Caton quitte l'école et devient un membre de la maisonnée de la famille Fell, comme enseignant et écrivain, amour divin et rafraîchissement prévalant parmi eux et poussé à aller dans les églises, au marché, etc. Quitte Swarthmore. En l'année 1652, vers le milieu du quatrième mois, ce fidèle messager et serviteur du trésor, George Fox, vint parmi nous et nous déclara le chemin de la vie et de la paix. Parmi ceux de cette famille qui crurent son rapport, je fus de ceux qui finirent par être touchés par sa doctrine, bien que, d'abord, je méprisasse autant sa non-conformité à nos modes, coutumes et salutations que, de nos jours, des étrangers réagissent à notre non-conformité à leur égard. Pourtant, quelque chose en moi l'aimait et reconnaissait son témoignage. Je commençais à trouver en moi-même la vérité de ce qu'il disait, car sa doctrine tendait fortement à nous amener à la lumière dont le Christ Jésus nous avait éclairé, qui brillait dans nos cœurs et nous convainquait de péché et de mal. Et c'est à l'amour et à l'obéissance envers cette lumière qu'il cherchait à nous conduire, afin que par le Fils, nous puissions être amenés à l'unité et à l'alliance avec le Seigneur. En temps voulu, le témoin de Dieu s'éveilla en moi, par lequel mes péchés furent rangés devant moi, et il fit venir sur moi jugement et condamnation à cause d'eux, mais, comme j'étais semblable à une génie sauvage, non accoutumée au joug, je cherchais à m'en défaire. Ce que je fis souvent, jusqu'à ce que je vienne à connaître quelque chose de la puissance de Dieu, qui amena cette nature sauvage en moi, non accoutumée au joug, à la soumission. Le Seigneur fut si bon envers moi que, peu de temps après avoir entendu la vérité, je devins témoin de sa puissance en moi-même. Par elle, l'homme fort en moi fut contraint de s'incliner, et les gardiens de la maison de trembler. À ce moment-là, je n'avais pas quitté l'école, mais j'y allais avec le fils du juge Fell, et lui étant quelque peu convaincu de la même vérité et touché par la même puissance, cela m'était plus facile et meilleur. Cependant, nous étions souvent sauvages, vains et dissolus, et nous nous livrions à la folie, éteignant souvent le bien en nous-mêmes. Mais tel était l'amour de Dieu envers moi en ces jours-là, que j'étais aussi sûrement poursuivi par le jugement que je l'étais rattrapé par la folie. Parfois je me séparais du reste de mes camarades d'école et me retirais en quelque lieu où je pouvais attendre le Seigneur et méditer ses œuvres merveilleuses. Lorsque j'étais ainsi retiré, et dans la simplicité de cœur à attendre le Seigneur, je recevais de lui du rafraîchissement. Mais lorsque j'étais détourné par la provocation de mon compagnon, ou par les tentations du mauvais en moi-même, alors mon cœur était troublé et inquiet. Avec le temps, mon étude devint mon fardeau, car lorsque j'étais tant tourmenté par la condamnation qui pesait sur moi, j'étais d'autant moins capable de composer des dissertations, des vers latins, etc. Et je n'étais pas non plus en mesure de rendre au maître d'école le compliment banal d'ôter mon chapeau, car j'étais alors convaincu dans ma conscience de la vanité de cela. Mon amie particulière, Margaret Fell, l'épouse du juge, remarqua mon état. Elle ne voulait pas me laisser aller à l'école plus longtemps que je ne le souhaitais. Elle me fit donc rester à la maison pour enseigner à ses enfants, l'accompagner lorsqu'elle sortait, et écrire pour elle, etc., ce qui fut pour moi un temps heureux. Après avoir quitté l'école, j'étais très occupée à écrire des choses précieuses et salutaires relatives à la vérité. J'eus bien des occasions de m'entretenir avec les amis, en qui la vie de justice avait commencé à bourgeonner et à éclore, et qui grandissaient dans l'amour et l'unité. Cela affecta grandement mon âme, et je désirais vivement être un avec eux en cela, afin de partager avec eux la vie de justice, car mon âme s'en réjouissait et y trouvait ses délices bien au-delà des plaisirs et des délices de ce monde passager. Quand j'eus environ 17 ans, la puissance du Seigneur Dieu opéra en moi puissamment et efficacement, me purifiant, me nettoyant et me sanctifiant, et je commençai alors à voir quelque chose de la gloire du ministère de condamnation et de la bonté de la parole de vie, devenue comme un feu dans mes os et comme une épée et un marteau dans mon cœur. Je commençai à être brisé, fondu et vaincu par l'amour de Dieu qui surgissait dans mon cœur et par les promesses divines et précieuses qui étaient confirmées à mon âme. Oh la cherté et l'excellence de ce jour, oh la gloire et la béatitude de ce jour. Comment ou pourrais-je le manifester, ou par quel moyen l'expliquer, afin que les générations à venir, et ceux qui ne sont pas encore nés, le comprennent et rendent gloire au Seigneur Jéhovah, oh l'amour qui, en ce jour-là, abondait parmi nous, surtout dans cette famille. La fraîcheur de la puissance du Seigneur Dieu, qui était alors parmi nous, et le zèle pour lui et sa vérité, le réconfort et le rafraîchissement que nous avions de sa présence, la proximité et l'affection qui existaient entre nous les uns envers les autres, les ouvertures et les révélations que nous avions alors. J'avoue me trouver incapable de déclarer ces choses au plus haut point, et je n'ai pas non plus l'intention, à présent, de chercher à les décrire en détail, car alors je pourrais faire un volume bien plus grand que celui que je me propose maintenant, mais mon cœur est touché, aujourd'hui, par leurs souvenirs. En ces jours-là, les réunions nous étaient extrêmement précieuses, à tel point que plusieurs d'entre nous passaient ordinairement chaque nuit quelque temps à attendre le Seigneur, oui, souvent après que le reste de la famille était allé se coucher. Oh, le réconfort et le rafraîchissement que nous avions ensemble, et le bénéfice que nous en retirions, comment l'exprimer? Car si nous avions subi quelques pertes pendant la journée, lorsque nous avions vaqué dehors à nos affaires ou à autre chose, alors, dans une large mesure, nous venions ainsi à être restaurés de nouveau par l'amour, la puissance et la miséricorde de notre Dieu, qui abondait grandement envers nous. Toutefois, parfois, j'étais privé de cette douce société, bien que mon cœur fût avec eux parce que j'allais me coucher sitôt avec le fils du juge avec qui je logeais alors. Pendant un temps, il fut sensible et plein d'espérance, mais ensuite, rencontrant bien des tentations, son cœur fut détourné de la vérité, et son esprit courut après les délices et les plaisirs de ce monde présent. Lorsqu'il passa dans une autre école, nous fûmes séparés, ce qui, à ce moment-là, ne fut pas pour moi un désavantage à un certain égard, bien que certains le regardassent comme un désavantage quant à mon avancement extérieur. Mais en ce jour-là, je préférais accomplir n'importe quel travail autour de la maison, avec les serviteurs qui étaient dans la vérité, plutôt que de jouir, pour un temps, des délices de ce monde avec ce fils ou avec quiconque. Car mon plaisir n'était plus, comme auparavant, dans les choses vaines, périssables et passagères du monde, mais dans le Seigneur, dans sa miséricorde et sa bonté, et à être avec son peuple, pour la compagnie duquel je me serais exposé à quelque emploi assez rude. Et il ne m'était pas alors trop méprisable de devenir comme Amo, gardien de bétail, ou comme Élisée de suivre la charrue, car en vérité, en ces jours-là, je jouissais et possédais ce qui rendait toute chose facile et légère pour moi. Et oh, l'abondance du rafraîchissement vivant que je recevais du Seigneur, il m'est difficile de l'exprimer ou de le déclarer pleinement. J'étais souvent vaincu par l'amour de mon Père, qui brisait et ravissait mon cœur de façon extraordinaire, et je sais qu'il en était ainsi pour d'autres de cette famille, et de ces débordements nous communiquions les uns aux autres, pour le réconfort et le rafraîchissement de chacun. Nous étions disposés à compatir et à porter les fardeaux les uns des autres, à nous être utiles les uns aux autres, et, dans un amour vrai et tendre, à veiller les uns sur les autres. Et oh l'amour, la miséricorde et la puissance de Dieu, qui abondait envers nous, à travers nous et parmi nous, qui pourra les déclarer. Ainsi cette digne famille en vint à être si renommée dans la nation, et sa réputation se répandit largement parmi les amis, et la puissance et la présence du Seigneur étant tellement là avec nous, cela devint comme un moyen d'inciter beaucoup de personnes, même de loin, à venir là. De sorte qu'à un certain moment, il y avait des amis de 5 ou 6 comtés, tout cela tendait à accroître mon rafraîchissement. En raison de mes nombreux écrits, il arriva que j'étais particulièrement en relation avec eux, et j'avais ainsi un privilège au-delà d'autres de mes compagnons de service. J'étais souvent avec le cher George Fox, qui, tel un père au cœur tendre, après m'avoir engendré par l'Évangile, cherchait à me nourrir de toute sagesse, fidélité et justice, à la gloire et à la louange de mon Père céleste. D'autre part, j'étais chérie et encouragée dans le chemin de la vie par mon amie entièrement bien-aimée, Margaret Fell, qui, telle une mère nourricière au cœur tendre, prenait soin de moi et était aussi attentive à mon égard que si j'avais été l'un de ses propres enfants. La bonté, l'estime et l'amitié qu'elle m'a témoignée ne doivent jamais être oubliées de moi. Lorsque j'eus ainsi récolté en abondance la miséricorde du trésor, et que sa puissance eut œuvré si efficacement en moi pour racheter mon âme de la mort, alors sa parole de vie commença à devenir puissante en moi, et voyant combien grandes étaient les ténèbres et l'ignorance où les gens étaient plongés, mon esprit fut remué en moi et se remplit d'amour pour leurs âmes et de zèle pour Dieu et sa vérité. Vers ce temps-là, je commençai à connaître le mouvement de sa puissance et l'ordre de son esprit, par quoi je fus poussé à aller dans les lieux de culte public pour déclarer contre la tromperie des prêtres et les péchés du peuple, et pour avertir tous de se repentir, car je leur rendais témoignage que le jour du Seigneur venait. Mais oh, la faiblesse, la crainte et le tremblement dans lesquels j'allais porter ce message, qui pourra les dire, comme je plaidais auprès du Seigneur à ce sujet, car je considérais ma propre faiblesse et mon insuffisance, et combien j'étais peu apte, à mon sens, à affronter des opposants, qui, je le savais, mépriseraient aussi ma jeunesse. Cependant, quels que fussent les raisonnements que j'opposais au Seigneur concernant cette grave affaire, je ne pouvais être excusé, mais il fallait que j'aille et que je déclare ce qu'il me donnerait à dire, et sa promesse était qu'il serait avec moi. Voyant qu'il devait en être ainsi, je pris courage au nom du Seigneur, et ayant foi en lui, une foi qui tenait dans sa puissance, je me rendis ensuite à sa volonté et j'allai dans l'obéissance à son mouvement. Quand je parvins au lieu, voici, les délibérations que j'avais eues auparavant s'étaient évanouies, et la crainte des hommes m'avait quitté, et force, courage, hardiesse et paroles me furent données, de sorte que je devins, par celui qui me fortifiait, un homme puissant plutôt qu'un simple jeune homme, même en face des assemblées. Cependant, mon témoignage fut peu pris en considération par beaucoup, et ils ne prirent pas à cœur ce que je leur déclarais. Certains se jetèrent sur moi et me maltraitèrent grandement, d'autres eurent pitié de moi et furent très troublés pour moi, et parfois ils étaient fort divisés entre eux, car certains étaient pour moi et d'autres contre moi. Mais au milieu de le Seigneur était avec moi, et sa puissance puissante me préserva, et lorsque j'eus déchargé ma conscience parmi eux, je revins avec beaucoup de paix et de joie dans le Saint-Esprit, car ma récompense était avec moi. Après que le Seigneur m'eut préparé à son œuvre comme il a été dit, je fus beaucoup sollicité à aller dans les églises, si bien qu'ils passaient rarement un premier jour de la semaine sans que je ne fusse dans l'une ou l'autre, et j'étais aussi souvent sur les marchés, où j'étais poussé à déclarer la vérité éternelle de Dieu, dont par sa miséricorde infinie, j'étais devenu témoin. Bien que, lorsque j'allais dans ces lieux, je ne susse guère ce que je dirais jusqu'à ce que j'y arrive, pourtant, voici, lorsqu'il fallait parler, je ne manquais jamais de mots ni d'expressions pour déclarer ce que le Seigneur m'avait donné à publier. Au contraire, j'avais souvent une abondance de paroles venant de lui, à ma grande admiration. Les coups, les brutalités, les coups de bâton, les pierres, avec les nombreux reproches que je subissais en ces jours-là, étaient peu de choses pour moi, non, ils n'étaient pas à comparer au rafraîchissement que j'avais par la jouissance de la vie, de la puissance et de l'amour que le Père avait révélés en moi, et par lesquels j'étais porté à travers tout cela et au-dessus de tout cela. Plus le Seigneur m'éprouvait en ces jours-là, plus je venais à faire l'expérience de sa bonté envers moi. Après que le Seigneur eut daigné m'honorer en me faisant porter son nom, et me tint pour digne de porter mon témoignage, en public comme en privé, à sa vérité éternelle, j'eus beaucoup de faveur et d'estime de la part de son peuple et parmi lui, dont l'amour abondait envers moi, et en ayant le sentiment, j'en étais très soutenu et fortifié dans ce service que Dieu m'avait assigné et auquel il m'avait appelé. Lorsque ce service était terminé, je retournais au lieu de ma résidence, où j'étais assidu à mon occupation, jusqu'à ce que le Seigneur m'ordonne un autre service, soit à des réunions au dehors le premier jour de la semaine, soit dans les églises. Le Seigneur était avec moi, et sa parole de vie passait souvent puissamment à travers moi, et jamais je n'entrepris aucun service pour le Seigneur, dans lequel j'étais fidèle, sans avoir toujours ma récompense avec moi. Quand je revins auprès de cette honorable famille, le lieu où je vivais, je veux dire chez le juge Fell à Swarthmore, dans le Lancashire, alors notre rafraîchissement était très grand ensemble dans le Seigneur, et c'est avec joie que nous parlions de ses œuvres merveilleuses, qui étaient très admirables à nos yeux. Et après y avoir connu de nombreux jours glorieux, et vu beaucoup des œuvres merveilleuses du Seigneur, au temps convenable, selon la volonté de Dieu, je fus appelé à sortir du milieu d'eux, le Seigneur ayant ailleurs d'autres services pour moi. Lorsque ce fut la volonté du Seigneur que je parte, le juge Fell y était fortement opposé, étant alors très peu disposé à se séparer de moi. Mais sa chère épouse, qui auparavant ne pouvait guère se résoudre à me laisser, fut alors rendue disposée à me remettre librement à la volonté du Seigneur, surtout pour un motif si honorable, car je ne les quittais pas pour aller servir d'autres hommes, mais pour publier le nom du Seigneur et déclarer au loin sa vérité éternelle. Chapitre 1654. Quittant Swarthmore, il voyage vers le sud dans le Warwickshire et jusqu'à Norwich, puis ensuite à Londres. Lui et les frères ont un grand service dans cette ville. C'était en l'année 1654, au 11e mois, alors que j'avais environ 18 ans, que je pris congé de cette illustre famille de Swarthmore. Mais oh! Les larmes qui furent versées parmi nous lors de notre séparation, et les prières et intercessions adressées au Seigneur, et quelle profonde impression notre séparation fit sur nos cœurs, qui peut le dire? Nous étions tellement unis et liés les uns aux autres, qu'il nous était très difficile de nous quitter. Cependant, lorsque nous considérions pour quelles raisons c'était, et que, malgré notre séparation, nous nous retrouverions l'un l'autre dans le Seigneur, alors nous pouvions d'autant mieux nous remettre à la volonté du Seigneur en cette affaire. Ainsi, selon la volonté du Seigneur, en son nom et en sa puissance, je tournai mon visage vers le sud, et je visitai les amis dans le Lancashire, et dans quelques régions du Yorkshire et du Derbyshire, comté que je traversai pour entrer dans le Warwickshire en un lieu appelé Bagley, où je rencontrai plusieurs des frères, qui reconnaissaient chèrement la puissance et le mouvement de celle-ci, par lequel j'étais poussé à cette œuvre glorieuse. Ayant été très doucement rafraîchis ensemble, confirmés dans la foi et la puissance de Dieu, et encouragés à persévérer dans ce service glorieux et honorable, je pris congé d'eux et poursuivis, au nom et dans la puissance du Seigneur, vers Norwich, dans le Norfolk, accompagné d'un autre ami. Arrivés à Wellingborough dans le Northamptonshire, nous trouvâmes plusieurs personnes nouvellement convaincues de la vérité du Seigneur, avec lesquelles nous fûmes grandement rafraîchis. Étant là le premier jour de la semaine, il me fut demandé d'aller à leur église, où j'eus quelques libertés, mais peu de déclarer la vérité éternelle de Dieu. Après cela, je retournai à la réunion des amis, où la puissance et la présence du Seigneur Dieu étaient avec nous, de sorte que nous eûmes une réunion très douce, confortable et rafraîchissante. Mon compagnon et moi fûmes arrêtés et gardés en détention cette nuit-là, mais le lendemain, comme la Providence l'ordonna, tandis que le prêtre et quelques-uns avec lui, comme nous en fûmes informés, était allé chercher un mandat pour nous conduire devant un juge de paix, nous fûmes relâchés par un certain officier. Après cela, nous voyageâmes vers Cambridge, où nous eûmes une très bonne occasion de visiter les amis, puis nous poursuivîmes notre route vers Norwich. C'était le cœur de l'hiver, et nous ne voyagions qu'à pied, ce qui était difficile pour l'homme extérieur, mais le Seigneur était avec nous, et sa puissance puissante nous soutenait et nous faisait tout traverser. Par sa miséricorde, nous arrivâmes sains et saufs à Norwich, où plusieurs de nos amis du nord du pays étaient en prison, nous leur rendîmes visite et fûmes doucement rafraîchis avec eux. Dans cette ville, nous eûmes une très grande réunion, à laquelle beaucoup de gens vinrent, et le Seigneur était avec moi, et me donna une bouche et une sagesse pour déclarer librement et puissamment sa vérité vivante. En ce temps-là, nous étions en grand danger d'être arrêtés, mais le Seigneur nous préserva des mains d'hommes déraisonnables. Dans cette ville, mon compagnon me quitta et repartit vers le nord, après avoir visité les amis et les frères là-bas, j'allai à la campagne et j'eus un très bon service pour le Seigneur. Peu de temps après, je me rendis à Londres, où je fus très aimablement reçu par les amis, et nous fûmes rafraîchis ensemble dans le Seigneur. Peu après, plusieurs des frères venus du Nord et d'autres régions arrivèrent à Londres, et la puissante puissance du Seigneur Dieu était avec nous, et nous fûmes grandement exercés, tantôt dans les églises, tantôt dans les réunions des séparatistes. Un premier jour, j'étais dans deux de leurs églises le matin, et dans l'une d'elles j'eus une grande liberté de parler. L'après-midi, j'étais à une réunion de professeurs, où six personnes parlèrent l'une après l'autre, et j'eus la liberté de parler librement parmi eux sans opposition ni contradiction de la part d'aucun, puis je partis en paix. Vers ce temps-là, la parole du Seigneur croissait puissamment dans cette ville, et beaucoup furent ajoutés à la foi, et de nombreuses églises, et la plupart des réunions de la ville, furent visitées par quelques-uns des frères, car à un certain moment, il y avait 10 ou 12 des frères ministres dans la ville. La plupart d'entre nous venaient du Nord, des hommes simples, honnêtes et droits, dont il plut au Seigneur de se servir en ce jour-là, et nous étions très assidus à son œuvre, nuit et jour, travaillant fidèlement jusqu'à la limite de nos capacités, pour exalter son nom au-dessus de tout, et faire connaître à tous sa vérité et son salut. En ce temps-là, nous eûmes beaucoup de réunions dans la ville, et je commençai à éprouver grandement la fidélité du Seigneur envers moi, lui qui me pourvoyait selon le besoin, et qui voulut donner ce qui convenait à l'état du peuple, à qui je devais le communiquer. Vers ce temps-là, je rencontrai mon cher frère John Stubb, qui était aussi monté à Londres depuis le Nord, et bien que alors nous eussions peu de connaissances extérieures l'un de l'autre, la Providence l'ordonna ainsi que nous devînmes compagnons et compagnons de voyage. Il nous fut demandé d'aller à la campagne, en partie vers Uxbridge. En un certain lieu à quelques milles d'Uxbridge, nous eûmes un très bon service, tant à l'église que lors d'une réunion qui fut organisée à notre arrivée en ce lieu. Le Seigneur était avec nous, en qui nous étions forts, et notre parole puissante, bien qu'à nos propres yeux nous fussions faibles et méprisables aux yeux de beaucoup. Le prêtre, mu par l'envie, souleva le peuple contre nous, si bien que, par son entremise, nous fûmes appréhendés et conduits devant un juge de paix. Mais le juge de paix était un homme modéré, qui raisonna avec nous, et percevant notre innocence, il nous relâcha. Ensuite, nous retournâmes à Londres avec joie et réjouissance, lorsque nous vîmes comment le Seigneur avait été avec nous, et comment il s'était éminemment manifesté, à travers nous, vase faible et méprisable. Nous en informâmes les frères à notre retour, qui, l'ayant appris, se réjouirent avec nous. Chapitre Yves 1655. Ils voyagent avec John Stubb dans le Kent, ils atteignent Douvres, sont traînés devant les magistrats Luke Howard, s'hardiessent à leur service, ils poursuivent vers Reith et d'autres lieux, eux sont cruellement traités à Maidstone. Nous restâmes quelque temps après cela dans la ville, où nous eûmes un bon service pour le Seigneur, puis il nous fut demandé d'aller dans le Kent vers Douvres, ce que nous fîmes en conséquence le 13 jour du premier mois, 1655. Nous étions dans une grande faiblesse et crainte, n'étant que jeunes dans la vérité, et entendant parler de ces hommes sages et professants qui étaient dans ces régions. Toutefois, dans la foi, nous allâmes de l'avant, ayant confiance en Dieu, qui avait été avec nous et qui était avec nous. En temps voulu, nous arrivâmes à Douvres, où nous étions comme des pèlerins et des étrangers, ne connaissant le visage de personne dans la ville. Après avoir marché quelque temps dans les rues, étant fort pressés et chargés dans nos esprits, nous prîmes gîte dans une auberge ou cabaret. Nous n'y avions passé qu'une nuit lorsque le maire vint à nous, ayant entendu dire que de tels hommes étaient en ville, et il nous interrogea. C'était un premier jour au matin, et il voulait nous retenir pour la journée, mais n'ayant rien contre nous, il ne put guère mener son dessein à bien. Après qu'il nous eut quittés, il m'incombait d'aller à l'église, où je n'eus qu'un peu de liberté de parler avant d'être emmené, mais dans la cour, j'eus un peu plus de liberté pour décharger ma conscience devant le peuple. Quant à mon cher compagnon John Stubb, il était au même moment à la réunion des anabaptistes. L'après-midi, il était dans l'autre église, et je fus poussé à monter au château à la réunion des indépendants, comme on les appelait, de sorte que, par le service de ce jour-là, la rumeur de notre présence se répandit non seulement dans la ville, mais aussi dans la campagne, et au sujet de la vérité dont nous rendions témoignage. Peu après, nous eûmes la liberté de tenir une réunion dans le lieu de réunion des baptistes, à laquelle beaucoup assistèrent. Et le Seigneur était avec nous et nous donna une bouche et une sagesse, non seulement pour déclarer puissamment, mais aussi pour défendre avec zèle la vérité éternelle, qui était alors fortement combattue et niée tant par les professeurs que par les profanes. Certains, cependant, commencèrent à s'y attacher et à en être touchés, et alors l'inimitié commença à œuvrer dans le cœur du peuple contre nous. Nous fûmes conduits devant les magistrats, qui nous interrogèrent et essayèrent de maintes façons de faire en sorte que la ville fût débarrassée de nous, et ordonnèrent que nul ne nous hébergeât sous peine d'une certaine amende, à la suite de quoi nous fûmes chassés de notre gîte. Mais le Seigneur suscita Luke Raud, un cordonnier, qui devint si aimant envers nous, et si hardi et vaillant, qu'il nous invita à demeurer dans sa maison, malgré leur ordre, et nous y restâmes plusieurs jours. Ensuite, nous eûmes des réunions dans sa maison, et plusieurs, alors, vinrent à être convaincus de la vérité, nous les recommandâmes à la grâce de Dieu et les laissâmes. ". Le récit suivant est donné par Luke Raud dans son journal, au sujet de sa première rencontre avec William Caton et de sa visite à Douvres. Après avoir décrit l'état d'égarement de son propre esprit, et le fait qu'il ne pouvait trouver aucun sentier battu, ni aucun homme pour le conduire hors du désert, Luke Raud nous apprend qu'il monta à Londres en 1654-5, et que le premier jour, il alla entendre prêcher un certain Cordwell dans Lombard Street. Lorsqu'il eut fini, un jeune homme se leva, venant tout juste du nord, il s'appelait William Caton, il fit retentir une alarme hors de Sion et proclama l'évangile de paix. À ce moment-là, cela me sembla comme les prêches du prêtre, mon esprit alors étant plus porté au dehors vers les choses visibles qu'au dedans vers l'invisible. Cela me fit dire à mon compagnon, « Viens, allons dîner », sans attendre qu'il eût terminé, car je sais autant que ce qu'il peut me dire, ou plus que ce que lui ou moi pouvons vivre, me faisant ainsi juge de sa vie et de sa doctrine, que je ne connaissais pas, et je tournais ainsi le dos à la vérité, comme trop le font. Le reste de la journée, nous le passâmes à marcher dans les champs, et la semaine suivante je rentrai chez moi. Le premier jour suivant, quelqu'un me rencontra dans la rue et me dit qu'un Quaker prêchait dans le cimetière, et que c'était le même William Caton mentionné plus haut. Je me rendis aussitôt pour voir quel genre d'homme était ce Quaker, et quand je le vis, mon cœur fut frappé au-dedans de moi, et je fus davantage touché par sa simple personne à Douvres que par sa personne et ses paroles aussi à Londres. Je lui servis de protection contre les garçons et les esprits grossiers qui lui offraient des insultes. Quand il eut rendu son témoignage, il s'en alla. Je remarquai alors où il entra, et le soir, comme Nicodème, j'allai le voir. J'étais réticent à y aller le jour, et j'aurais volontiers trouvé de la compagnie pour m'accompagner, mais je ne pus alors j'y aller seul. Je le rencontrai, avec son cher compagnon John Stubb, qui avait été à l'autre maison au clocher. Je crois que le Seigneur me remua dans mon esprit pour aller les voir. Je les trouvai mangeant un peu de pain avec de la bière, sans rien pour l'adoucir ni l'agrémenter. Je leur demandai donc de sortir avec moi, et nous allâmes chez un professant baptiste qui conversa beaucoup avec eux, et il fut convenu de tenir une réunion le lendemain dans la maison de réunion des baptistes. Cela fut fait. Après quoi, beaucoup les suivirent jusqu'à leur auberge, comme des curieux et des badauds, et certains pour s'y opposer. Alors les dirigeants de la ville envoyèrent dire à l'aubergiste de les chasser de sa maison, sinon ils arracheraient son enseigne. L'aubergiste s'adressa donc à moi, parce qu'il voyait que j'étais en sympathie avec eux, et me pria de le leur dire ce que je fis. Mais je dis aussi à John et à William, « Venez chez moi, dans ma maison, car je ne crains ni les dirigeants ni le maire non plus. » Ils vinrent donc chez moi, et le cinquième jour suivant nous eûmes une grande réunion dans ma maison, et leur témoignage fut pour moi comme celui de Jean-Baptiste pour Hérode, qui l'écoutait volontiers, et comme celui de Paul pour Agrippa, qui fut presque persuadé d'être chrétien. J'étais convaincu dans mon jugement, et leur témoignage fut pour moi comme un chant agréable. Ainsi la réunion se termina, et tous s'en allèrent en paix. Il décrit ensuite son refus de livrer ses amis, lorsqu'on s'adressa à lui par les constables envoyés chez lui par le maire. Le lendemain, de nouveau dans ma maison, nous eûmes, je puis dire, une bonne et bénie réunion, au cours de laquelle ces paroles furent prononcées, que, nonobstant la profession de religion des hommes, le corps de mort se tient encore en eux. Il déclara ensuite que le témoin au-dedans avait répondu, et il devint sensible à sa propre condition sombre et à l'état de son esprit, de sorte qu'il lui sembla que c'était l'œuvre du Seigneur de me montrer à moi-même, et que je n'étais que mort et ténèbres, et de m'en vider, afin qu'il puisse me remplir de sa propre plénitude de grâce et de vérité, c'est-à-dire de la vie de Jésus-Christ, en qui seul il prend plaisir. Alors mes deux amis, épars dans la vérité, sortirent de la ville, et je fis 2 ou 3 milles avec eux, et ils prirent par écrit les noms de quelques villes et de quelques hommes le long du littoral, et tous ceux dont je leur avais donné les noms les reçurent. En ce temps-là, Samuel Fiché en était un. Après les avoir quittés, ma tristesse fut grande, et mes larmes nombreuses, si bien que j'eus grand-peine à garder les yeux secs quand je revins à Douvres. ". La lettre suivante a été copiée sur l'original, trouvée dans une précieuse collection privée de lettres autrefois provenant de Swarthmore, et pourra aussi intéresser le lecteur. John Stubb et William Caton à Francis Haugill et Edward Burr of Sherker. Francis et Edward, nous sommes arrivés à Douvres le septième jour de la semaine dernière, jour de marché vers la nuit, et nous avons passé puis repassé par les rues et sur la place du marché, bien que rien ne nous ait été donné pour y parler. Puis la nuit, nous avons pris une chambre, et nul homme ne nous connaissait de visage. Le lendemain matin, le maire et quelques-uns de ses gens vinrent à notre logis et nous interrogèrent sur d'où nous venions, etc. Il fut fort troublé que nous ne nous inclinions pas devant lui et dit que nous devions être arrêtés comme vagabonds. Alors nous fûmes conduits devant un capitaine, qui est l'un des enseignants séparatistes. Lui et ce maire furent très rigoureux à nous examiner chacun à part. Ils nous demandèrent des lettres, nous avions des papiers, ils les virent et nous les rendirent. Nous eûmes notre liberté avec un ordre du maire que nous devions nous tenir tranquilles et de bonne conduite. Après les avoir quittés, l'un de nous alla, dans la matinée, à une maison au clocher, et l'autre à une réunion baptiste. William fut tiré vers le bas dans la maison au clocher, quoiqu'avec peu de violence, mais il eut liberté de parler dans la cour. Parmi les baptistes, j'eus autant de liberté que je pouvais le désirer. Je vis une semence parmi eux, peu de paroles furent prononcées, grande fut la puissance qui l'accompagnait. L'après-midi, William alla vers le capitaine, là où est la garnison, et là le capitaine s'opposa beaucoup, mais les soldats étaient disposés à entendre. J'allai à une maison au clocher des indépendants. Là se trouvait autant d'esprit hautain et léger que j'en avais jamais rencontré, tant au fort qu'en ville. Oh, qui est suffisant pour affronter une telle génération ? Il y avait à cette réunion baptiste un capitaine et sa femme, qui nous envoyèrent chercher à leur logis le premier jour au soir, et quelques autres s'y trouvèrent. Il y a une conviction sur eux deux, mais surtout sur lui. Il commande un château entre cet endroit et Maidstone, et c'est un homme très modéré, simple de cœur, il fut très attentif à la réunion quand j'y étais. Des riches et des pauvres viennent fréquemment du château et de la ville à notre logis, prier afin que nous soyons gardés dans un état de discernement. Aujourd'hui, le maître de poste nous a dit qu'il désirait avoir une réunion privée avec nous. Quelque chose s'est allumé parmi eux, l'homme est d'un esprit tempéré et très prometteur. Un autre, un cordonnier, un certain Raoud et sa femme, qui ont été baptistes, dit-il, depuis 10 ou 11 ans, mais n'ont aucun repos, il est clairement convaincu. Un feu est allumé parmi eux, qui ne peut être soudain éteint. Ils sont riches et bien pourvus, et maintenant ils ont peur d'être mis en perte. Nous nous efforcerons d'obtenir une réunion parmi eux, et ainsi de dégager nos consciences envers eux. Faites-nous savoir de vos nouvelles aussi promptement que vous le pouvez, et nous voudrions que vous nous envoyiez une douzaine de livres de quelque sorte, que vous jugerez utiles, et nous nous efforcerons d'obtenir l'argent pour eux. Vous pouvez faire en sorte qu'ils soient livrés chez Luke Howard, le cordonnier, à Douvres pour nous être acheminés. Le maître de poste est bienveillant envers nous, mais nous sommes dans une auberge de la ville, où beaucoup viennent volontiers nous voir. Ainsi, notre cher amour à tous nos chers amis qui sont avec vous, nous demeurons vos frères. John Stubb, Will Caton, nous voudrions que vous montriez ceci à G. Sans doute George Fox, Douvres, 19 du premier mois, 1654, cette lettre est adressée à ses amis très chers Francis Haugill ou Edward Burroughs, chez le juge Hubert à Moorfield, Londres. Après cela, nous sommes allés dans une ville appelée Folkestone, où nous fûmes aimablement reçus par Thomas Nichol, sa femme et d'autres, et nous y eûmes quelques bonnes réunions, le prêtre de la ville et beaucoup d'autres étant présents à certaines d'entre elles. Et le témoin de Dieu fut véritablement touché en quelques-uns, et certains furent convaincus de la vérité et la reçurent dans l'amour d'elle. J'allai aussi à leur maison au clocher, mais j'y fus traité avec incivilité et l'on ne me permit de parler qu'un peu, jusqu'à ce qu'un homme grossier me chassât violemment, mais quelques-uns, simples et modérés, en furent troublés. Quand nous fûmes quittes de cette ville, nous voyageâmes vers Rey, et en chemin, nous entrâmes dans un château qui se tenait au bord de la mer, le château de Sandgate, où nous fûmes aimablement reçus tant par le capitaine que par sa femme. Nous eûmes une ou deux réunions parmi les soldats et d'autres, et après cela nous allâmes au raid mentionné plus haut. Il nous fut demandé d'aller à leur lieu public de culte, ce que nous fîmes, mais peu après que l'un de nous eut commencé à parler, nous fûmes violemment tirés dehors, mais préservés par la main du Seigneur, d'être beaucoup maltraités par la foule grossière. On remarqua beaucoup que celui qui s'était montré le plus violent contre nous eut ensuite, en peu de temps, un jugement remarquable qui s'abattit sur lui. Dans cette ville, les baptistes nous permirent d'utiliser leur salle de réunion, et d'abord ils furent assez modérés et polis envers nous, mais ensuite ils devinrent ou certains d'entre eux nos grands opposants. Cependant, il y eut dans cet endroit quelques personnes qui crurent et reçurent notre témoignage. Nous allâmes de cette ville plus avant dans la campagne, et fûmes à Romney et à Leeds, où il y avait beaucoup de grands professants, et parmi eux Samuel Fiché, pasteur baptiste très éminent et capable. Il m'incombait d'aller à la réunion des indépendants et à mes chers frères d'aller à la réunion des baptistes, où il eut bonne liberté. Le Samuel fiché mentionné avait parlé parmi eux, mais, comme il apparut, il fut tellement touché par la doctrine de John que, lorsque John eut terminé, Samuel commença, dans sa sagesse, à la paraphraser avec excellence de parole, afin de la présenter selon sa compréhension au-delà de ce que John avait fait. À la réunion où j'étais, on me laissa à peine la liberté de dégager ma conscience parmi eux. Ensuite, nous eûmes des réunions dans les deux endroits. Une fois, nous fûmes à une réunion dans la rue Alide, car la maison de l'ami ne pouvait contenir la multitude, les magistrats, ou certains d'entre eux, envoyèrent dire au Samuel fiché mentionné, qui était aussi présent à la réunion, qu'il pouvait nous faire ouvrir la porte de l'église, comme il l'appelait, pour y entrer. Mais nous refusâmes de l'accepter et choisîmes plutôt de continuer notre réunion dans la rue. Le Samuel fiché mentionné crut notre rapport, avec plusieurs autres dans ces deux villes, qui furent convaincus de la vérité de Dieu, laquelle n'avait été déclarée dans ces régions par aucun ami auparavant. Nous sommes aussi allés dans la campagne du côté d'Ashford et de Tanterden, et y avons tenu de grandes réunions, et de fortes controverses avec des professants, qui s'opposaient grandement à nous, surtout dans ces deux villes. Cependant, nous trouvâmes dans la plupart des lieux où nous tenions des réunions quelques personnes simples et tendres de cœur. Nous fûmes aussi à Cranbrook et à Staplehurst, où nous trouvâmes un peuple très ouvert, très prêt à recevoir et à embrasser la vérité éternelle, que nous leur administrâmes librement et puissamment, selon la mesure que nous en avions reçue, dans la démonstration de l'Esprit éternel. Nous eûmes plusieurs grandes et précieuses réunions parmi eux, et la puissance et la présence du Seigneur Dieu furent beaucoup avec nous, nous nous en réjouissions ensemble, distribuant librement la parole de vie, qui alors demeurait richement et abondamment dans nos cœurs, et comme nous l'avions reçue gratuitement, nous la dispensâmes aussi gratuitement. Car bien qu'il y eût ceux qui auraient voulu nous donner or et argent, que certains auraient même voulu nous imposer, pourtant nous n'avions pas la liberté d'en recevoir un seul sou, car nous leur disions que ce n'était pas leur possession, mais eux-mêmes que nous cherchions. Beaucoup furent convaincus et profondément touchés par la vérité, qu'ils reçurent avec joie et allégresse. Parmi eux comme ailleurs, nous cherchions à établir et à affermir des réunions, et à amener ceux qui étaient convaincus à attendre le Seigneur en silence, dans cette lumière de vie en eux-mêmes, vers laquelle nous les tournions, afin qu'ils puissent jouir de la substance de ce qu'ils avaient professé. En conséquence, des réunions vinrent à s'établir dans la plupart des lieux mentionnés ci-dessus, que ceux qui étaient convaincus maintinrent après notre départ. Astérisque astérisque, les amis de Douvres furent parmi les premiers à donner ce noble exemple de se rassembler au nom de celui qui a promis d'être au milieu d'eux, et qui se trouva être pour eux le témoin fidèle et véritable. Je puis aussi vous faire part un peu de l'état des choses parmi nous lors de notre première conviction et de nos réunions, après que nous nous fûmes assis pour attendre le Seigneur en silence, ce qui fut notre pratique pendant quelques années, sauf lorsqu'un ami voyageur venait parmi nous. Je puis dire en vérité que le Seigneur était notre enseignant, et que sa présence et sa puissance se manifestaient parmi nous, quand aucune parole n'avait retenti à nos oreilles extérieures, car plusieurs d'entre nous, et à plusieurs reprises dans ces réunions, ont senti la puissance du Seigneur, qui a fait trembler nos corps extérieurs aussi bien que nos cœurs, et une grande crainte et révérence saisit mon cœur, et le Seigneur confirma sa vérité en moi de jour en jour, répondit à mes doutes et affermit ma foi parée dans sa puissance. Au recueil d'écrits de Luke Howard, 1704, p. 29. Après cela, nous fûmes poussés à aller dans une grande ville appelée Maidstone, et comme c'était un premier jour de la semaine, nous assistâmes le matin à une réunion des gens appelés baptistes à la campagne, et après leur avoir déclaré le chemin du salut, nous les quittâmes et allâmes à la ville mentionnée. Lorsque nous y arrivâmes, il revint à mon cher frère John Stubb d'aller à leur lieu public de culte, et à moi d'aller à la réunion des indépendants, ce que nous fîmes en effet, et John fut arrêté dans leur maison au clocher, et moi le lendemain à mon auberge, et nous fûmes tous deux envoyés à la maison de correction ainsi nommée, où l'on nous fouilla, et où l'on nous prit notre argent, nos encriers, notre Bible, etc. Ensuite, on nous déshabilla, et l'on mit nos cous et nos bras au pilori, et dans cet état nous fûmes cruellement fouettés, puis on nous mit des fers et de gros morceaux de bois entravant, et dans cet état on aurait voulu nous contraindre à travailler, disant « Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger », etc. Car puisqu'ils avaient agi si méchamment avec nous, et cela sans aucune cause juste, et qu'ils ne pouvaient pas non plus nous accuser justement d'avoir enfreint une loi quelconque, nous n'avions pas la liberté de consentir à leur volonté cruelle jusqu'à faire leur travail, et c'est pourquoi ils nous gardèrent sans nourriture pendant quelques jours. On ne nous permit qu'un peu d'eau une fois par jour. La personne qui nous avait fait incarcérer et qui fut le principal agent de cruauté contre nous était un presbytérien notoire. Les autres prisonniers qui se trouvaient là auraient voulu nous donner de leur pain, et les femmes de la maison furent émues de compassion envers nous. Tous deux auraient voulu nous donner quelque chose en secret, mais nous n'avions pas la liberté, à ce moment-là, d'accepter l'un ou l'autre, jusqu'à ce que ceux par l'ordre desquels la provision nous était refusée consentissent à ce qu'on nous l'apporte, ce qu'enfin ils ou ils firent. Beaucoup dans la ville commencèrent à s'offenser de la cruauté qu'ils manifestaient envers nous. Quand ceux qui cherchaient à nous courber à leur volonté furent courbés par la puissance de Dieu, nous eûmes la liberté de recevoir des vivres pour notre argent, et nous mangeâmes et fûmes restaurés ... Les détails suivants, en plus de se donner ci-dessus, proviennent de quelques anciens documents des amis de l'Éducent. William Caton, étant amené devant le magistrat, fut interrogé sur le lieu où il demeurait, depuis combien de temps il avait quitté sa maison, et par quel chemin il était venu, avec d'autres questions du même genre. William répondit qu'il venait de Londres. Le magistrat demanda ce qu'il faisait lorsqu'il vivait à Londres. William dit, « À faire connaître la vérité éternelle, comme il en est ému par le Seigneur, tournant les gens des ténèbres vers la lumière, afin qu'avec la lumière ils puissent se voir eux-mêmes et être amenés à la repentance, etc. » Alors le magistrat lui dit qu'il avait un maître pour lui, et qu'il serait mis au travail, et lié à lui pourtant par an. Mais William refusa d'être lié à un homme, ou d'être en servitude envers quiconque, disant qu'il était dans l'œuvre et le service du Seigneur, et qu'il ne pouvait sortir du service du Seigneur pour être esclave d'un homme. Ce document ancien décrit ensuite le traitement cruel en des termes presque semblables à ceux du journal ci-dessus, quoique parfois avec plus de détails. Après avoir été chassé de la ville, ils passèrent entre les mains de nombreux constables, William Caton étant séparé de son ami. Le récit ajoute ensuite que ces officiers commencèrent à se relâcher de leur ordre, et, à la fin, les laissèrent sur les grands chemins, leur visage céleste et leur vie sobre, ainsi que leurs paroles, leur prêchaient tant, qu'ils finirent par leur permettre de voyager seuls où bon leur semblait. Le document continue en racontant leur retour à Maidstone et ajoute, avant qu'ils ne soient de retour à Douvres, le bruit de leur mauvais traitement à Maidstone parvint aux oreilles du maire de Douvres, lequel, rencontrant Luke Howard, dit « Luke, j'entends dire que tes amis ont été à Maidstone et qu'ils ont été fouettés. Nous ne les avons pas si mal traités ici. » « Non, dit Luke, mais vous les avez traités plus mal que vous n'auriez dû. » Ainsi, peu de temps après, William Caton et J. Stubbs revinrent à Douvres, où ils, avec les amis, jouirent de leur réunion paisiblement, beaucoup étant convaincus. Manuscrit des amis de l'Éducent. Le lendemain, après que leur cruauté sembla s'être apaisée, ils envoyèrent un officier qui restitua certaines de nos affaires qu'ils nous avaient prises, mais ils brûlèrent plusieurs bonnes feuilles de papier et des lettres. Ensuite, ils nous séparèrent et, avec des agents, nous conduisirent hors de la ville, l'un par une extrémité de la ville, et l'autre par l'autre, ce qui ne fut pas une petite épreuve pour nous d'être ainsi séparés. Nous fûmes remis, d'un officier à l'autre dans la campagne, et de cette manière renvoyés vers nos habitations dans le nord. Mais, après avoir été entre les mains d'environ 12 d'entre eux, ils commencèrent à se relâcher de leur ordre et finalement, me permirent de voyager seul, ce que je fis en effet vers Londres. Le lendemain, j'approchai de Londres, où je fus plus qu'un peu rafraîchi avec les frères, et j'y rencontrai de nouveau mon cher compagnon John Stubb pour notre grand réconfort. Il nous parut bientôt nécessaire de retourner encore une fois à la ville de Maidstone, et dans ce pays-là, ce qui ne fut pas une petite épreuve pour nous. Toutefois, nous nous abandonnâmes à la volonté du Seigneur et revînmes en 2 ou 3 jours. Quand notre grand persécuteur à Maidstone apprit notre retour, il lança une poursuite à nos trousses. Ils parcoururent environ 8 000 dans la campagne, venant à la maison d'un ami où nous avions séjourné, mais alors nous étions déjà ailleurs, et comme c'était le premier jour, ce matin-là nous allâmes à leur maison au clocher, mais l'officier n'y était pas alors. Ainsi la Providence l'ordonna, de sorte que nous fûmes préservés de tomber entre leurs mains. Ensuite, nous parcourûmes le pays en visitant les frères qui avaient reçu l'Évangile, lesquels furent affermis dans la foi, et d'autant plus par nos souffrances patientes. Nous fûmes aussi à Canterbury, où nous eûmes un bon service, surtout parmi les baptistes et les indépendants ainsi appelés, car nous fûmes à leur réunion et eûmes assez de liberté pour déclarer parmi eux la vérité de Dieu. Quelques-uns y reçurent notre témoignage et furent convaincus de la vérité, de sorte qu'une réunion vint à s'y établir. De même, à Sandwich, j'eus un service auprès du peuple hollandais dans leur maison au clocher, mais à ce moment-là, la vérité ne fut reçue que par quelques-uns. Chapitre V 1655. Il visite Calais en France, retourne à Douvres, voyage à Yarmouth, puis dans le Nord avec John Stubb, s'embarque pour la Hollande, leurs travaux dans ce pays et retourne en Angleterre. Le 12 du 4e mois 1655, il me revint de passer à Calais, en France, ce que je fis donc depuis Douvres. Quand j'y arrivai et vis le lieu s'y adonner à l'idolâtrie, mon esprit fut très accablé et abattu au-dedans de moi. Dans la puissance du Seigneur, j'allais à leur lieu de culte, où certains adoraient devant leurs idoles muettes statues catholiques romaines de Marie, Jésus, Joseph, Pierre, etc. Je passais au milieu d'eux, mais je ne pouvais pas aisément leur parler, parce qu'ils ne pouvaient pas me comprendre, et moi non plus je ne comprenais pas alors leur langue. Mais le Seigneur fit ensuite une voie pour que je puisse soulager mon esprit et dégager ma conscience auprès de quelques-uns d'entre eux. Car après y avoir été un peu de temps, certains des principaux de la ville surent que j'y étais, et désirèrent me voir et parler avec moi, et quelques-uns d'entre eux descendirent en personne au quai, là où le navire sur lequel je demeurais était à l'ancre me cherchant. Ayant compris que j'étais à bord, ils m'appelèrent à terre, et l'on me conduisit ensuite en un lieu privé, par crainte de la foule grossière. Mon guide me dit, il me le répéta, qu'il avait été chargé de me mener dans une grande maison, où plusieurs des notables de la ville étaient assemblés pour me voir, m'entendre et parler avec moi. Ainsi j'eus une grande occasion de déclarer la vérité parmi eux. Un seigneur écossais ainsi appelé servait d'interprète. Il plut au seigneur de me donner une précieuse domination sur leurs esprits vains et écumeux, très portés à la légèreté et à la vanité. Quand j'eus fini de parler selon ce que ma conscience requérait, ils me permirent de partir en paix. Dès que je fus libre et en état de retourner en Angleterre, je le fis, et je trouvai mon cher compagnon John Stubb à Bristol. À cette époque, il revint à John Stubb d'aller en Hollande, et je fus rendu très libre dans le Seigneur de l'accompagner. Nous eûmes ensuite un bon service dans le pays, en revenant vers Gravesend, et de là nous allâmes à Colchester, puis à Yarmouth dans le Norfolk. Extérieurement, nous étions pauvres et faibles, mais pourtant pleins de puissance et forts dans le Seigneur. Nous étions très économes et réservés dans nos dépenses, sur quoi je pourrais en dire davantage qu'il ne m'est libre d'en insérer ici. Néanmoins le Seigneur nous permit de voyager jour après jour, et de faire beaucoup de milles en une journée, malgré le fait que nos corps étaient tant soumis au stress du voyage. En ces jours-là, nous ne manquions pas d'argent non plus, bien qu'on eût pu nous en donner en abondance, mais nos cœurs étaient purs et libres de toute convoitie à cet égard. Comme le Seigneur le sait bien, nous nous gardions purs et libres de recevoir de l'argent, car comme nous avions reçu gratuitement, nous étions aussi disposés à donner gratuitement. Le peu que nous avions, le Seigneur le sanctifia et nous le bénit, et notre récompense était toujours avec nous, en quelque lieu et en quelque condition que nous fussions. Après notre arrivée à Yarmouth, nous y attendîmes, ainsi que dans la campagne d'alentour, la plus grande part de 3 semaines, un passage pour la Hollande. Enfin, une occasion de navire sembla se présenter ainsi que du vent. Nous montâmes donc à bord, non sans quelques difficultés sur la rade, mais peu après le maître monta à bord et s'apercevant de ce que nous étions, ne voulut pas nous transporter et nous força à redescendre à terre, et cette déception, après avoir attendu si longtemps, ne fut pas une petite épreuve pour nous. Quand nous vîmes qu'il y avait peu de chances d'obtenir de là un passage pour la Hollande, nous décidâmes d'aller dans le nord, et après y avoir attendu quelque temps de plus, nous obtînmes un passage pour Sunderland, ayant sur nous un poids non léger, d'autant plus lourd qu'il se disait parmi les amis du pays que nous avions passé la mer. Quand nous arrivâmes dans le nord, j'eus un vif désir d'aller voir mes chers et proches parents dans le Seigneur à Swarthmore et dans les environs, et la Providence l'ordonna de sorte que j'en eus l'occasion. Oh, le rafraîchissement que nous eûmes à notre réunion, et durant le temps que je demeurai parmi eux, il me serait difficile de le déclarer jusqu'au bout. Chère Margaret Fell, qui avait été pour moi comme une mère nourricière au cœur tendre, fut réjouie d'entendre comment le Seigneur avait été avec moi, comment il avait béni mes travaux et prospéré son œuvre entre mes mains. Pour toutes ses miséricordes, avec beaucoup d'autres, nous rendîmes au Seigneur sa louange, ce qui lui est dû, et de cœur joyeux, nous lui offrîmes le sacrifice de louange et d'action de grâce. Après y avoir séjourné quelque temps, étant rafraîchi d'esprit et de corps, il me revint de repartir, afin de m'efforcer d'accomplir le voyage mentionné vers la Hollande, et quand le temps de mon départ arriva, je pris congé d'eux avec beaucoup de brisement de cœur, et c'est dans cet état que je l'ai quitté. Après avoir visité d'autres amis, je revins encore dans l'évêché, là où j'avais laissé mon cher compagnon. Ensuite, nous eûmes quelques précieuses réunions dans ces contrées, qui, avec celles que nous avions eues auparavant, ne furent pas d'un petit service, et étant assez quittes de ces régions, nous cherchâmes de nouveau une occasion pour la Hollande. Arrivés à Shields, nous entendîmes parler d'un navire qui devait aller en Flandre, et bien que ce fût dans les domaines du roi d'Espagne, et assez éloigné de la Hollande, nous voulûmes néanmoins partir avec lui, espérant obtenir passage de là. Ainsi étant montés à bord, nous revînmes enfin, par miséricorde, sur la rade de Yarmouth, où nous trouvâmes un navire destiné à Flessing, en Zélande, celle-ci étant plus proche de la Hollande que la Flandre, nous nous y embarquâmes. Par la miséricorde du Seigneur, nous arrivâmes bien à Flessing, là nous nous trouvâmes parmi un peuple d'une langue étrangère, et après y avoir été peu de temps, nos esprits furent remués au-dedans de nous par la puissance du Seigneur, par quoi nous fûmes poussés à proclamer son grand jour et à publier sa vérité éternelle dans et à travers leurs rues, qu'ils puissent comprendre ou non ce que nous fîmes, et sa puissance et sa présence furent avec nous. En ce temps-là, nul ne mit la main sur nous. Ainsi, après avoir déchargé nos esprits, en les soulageant du poids qui pesait sur eux par l'obéissance au Seigneur, nous retournâmes à notre logis. Quand le premier jour de la semaine arriva, il nous revint d'aller à l'assemblée des Anglais et des Écossais, ce que nous fîmes, et beaucoup nous regardaient et s'étonnaient de nous, à cause de notre non-conformité avec eux. Mais après que nous eûmes commencé à parler, ils furent fort agités, les uns par fureur et rage, les autres par admiration. Cependant, ils ne nous permirent pas de parler longtemps, et nous chassèrent précipitamment avec une grande indignation, et quelque violence nous fut faite. Toutefois, le Seigneur nous préserva, de sorte que nous reçûmes peu de mal de leur part, béni soit son nom à jamais. Le même jour, nous allâmes dans une autre grande ville appelée Middelburg, et nous y arrivâmes avant que leur dévotion de l'après-midi ne fût terminée. Quand nous y arrivâmes, il nous revint d'aller au lieu de réunion où se rassemblaient les Anglais et les Écossais, où nous attendîmes jusqu'à ce que le prêtre eût fini. Ensuite, l'un de nous commença à parler, mais le prêtre ne le permit pas, s'imaginant d'abord, avant de bien comprendre, que nous étions venus mendier. Mais quand il s'aperçut du contraire, lui et d'autres furent plus contre nous, et certains surtout se montrèrent très violents et me battirent beaucoup. En vérité, si le Seigneur n'avait pas été avec nous et ne nous avait pas préservés par sa puissante puissance, ils auraient pu nous faire beaucoup de mal, mais béni soit le Seigneur, il fut notre gardien et notre protecteur. Après cela, le prêtre nous fit demander à sa maison et raisonna quelque temps avec nous, mais il était d'un esprit si hautain et ambitieux, comme le sont beaucoup de cette génération, que la vérité pouvait difficilement entrer en lui ou recevoir accueil de sa part. Après d'autres bons services dans la ville, et nous en étant rendus assez quittes, nous nous embarquâmes pour Rotterdam, en Hollande, où, après quelques difficultés et privations, nous arrivâmes par la miséricorde du Seigneur, mais nous ne connaissions le visage de personne. Après avoir été quelques jours dans la ville, plusieurs apprirent notre présence, et, au bout d'un certain temps, nous obtînmes une réunion dans la maison d'un marchand anglais, à laquelle vinrent beaucoup de marchands, tant hollandais qu'anglais. Nous souffrîmes faute d'un bon interprète, car celui qui interprétait pour nous n'était pas vrai et fidèle à rendre nos paroles telles que nous les disions, mais parfois autrement, de sorte que les auditeurs, ou certains d'entre eux, vinrent plutôt à être irrités contre nous qu'à être gagnés à la vérité. Cependant, le témoin de Dieu en quelques-uns répondit à la vérité de notre témoignage. Comme aucun ami n'avait auparavant déclaré la vérité parmi dans cette ville, cela fut regardé comme une chose d'autant plus étrange, et l'on s'étonna d'autant plus de nous, mais en temps voulu, lorsque nous eûmes dégagé nos consciences et rendu un témoignage fidèle à la vérité de Dieu en ce lieu, nous en partîmes et retournâmes en Zélande, où nous prîmes un navire pour l'Angleterre. Après avoir attendu quelque temps le vent, nous eûmes l'occasion de partir, mais nous rencontrâmes en mer une très forte tempête. Toutefois le Seigneur nous préserva, et nous arrivâmes bien à Burlington, Bridlington, dans le Yorkshire, mais il ne nous fut pas permis d'entrer dans la ville, parce que nous venions de Hollande, où l'on disait que la maladie sévissait alors. Néanmoins, nous vîmes nos amis et fûmes rafraîchis de nous voir les uns les autres. Peu après, nous reprîmes la mer, et lorsque nous approchâmes de Rotlipool, le vent soufflant très fort, nous perdîmes notre mât de misaine et fûmes en danger apparent. Mais il plut au Seigneur de nous préserver encore alors, et d'apaiser la violence des vagues tumultueuses par sa puissante puissance, en laquelle nous mettions notre confiance. Quand, par miséricorde, nous eûmes gagné la terre ferme en sûreté, nous montâmes dans la campagne parmi les amis, auprès desquels nous fûmes plus qu'un peu rafraîchis dans le Seigneur. Après avoir tenu plusieurs réunions dans l'évêché d'Uram, je retournai dans le Lancashire et arrivant à Swarthmore, j'y fus reçu de nouveau avec joie dans le Seigneur, en qui notre rafraîchissement fut grand, et nous eûmes ensuite un temps très précieux ensemble, par lequel ma vie même fut grandement ranimée, et ainsi mon âme magnifia le Seigneur, avec le reste de ses agneaux et de ses petits dans cet endroit. Journal, suite. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.